d'Europe numéro 1 à Europe 1, 50 ans d'archives sonores.
Ici, Europe numéro 1.
Here is Europa numéro 1.
This is Europe number 1.
Il fera jusqu'à 26 à 27 degrés à Paris cet après-midi, 29 à Nantes, 32 à Bordeaux et à Périgueux, à Toulouse et 33 à Pau.
Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi l'émission de Jacques-Antoine. Vous êtes formidable.
Salut les copains.
Une émission de Daniel
Philippe. Alors ne tirez pas. Ah, le plus beau bel. Du cœur au boulot. Wow, wow. Mélodie Parade, Gérard Klein.
Troisième but, 3-0. Ensemble, nous sommes, ils sont, tous ensemble, la France entière est championne du monde de football. Historique.
Europe 1, découverte. Europe 1.
We copy you down, Eagle. You're looking good here.
Ça y est.
Là, t'as la lune. Faire.
Et pas le faire en tout cas.
Voici donc, Musicorama sur le Tour de France, présenté par l'huile de Sieur.
Pulpeux comme la pêche.
Marc Tronchot.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans le studio des Enfants d'Europe 1. Aujourd'hui, nous allons célébrer l'amitié avec un grand A, celle d'un écrivain, d'un musicien, de deux poètes, celle de René Fallet, inoubliable auteur de Banlieue Sud-Est, du Triporteur ou de la Soupe aux Choux, et d'un chanteur-compositeur du nom de Georges Brassens. Une amitié, deux talents, dont la jeune station Europe numéro 1 va se faire l'écho en diffusant sur ses ondes, à la fin de l'année 55, année de naissance pour Europe, un conte, écrit par René et lu par Georges, un conte intitulé Jean le Loup, les aventures d'un vagabond dans la campagne française, un conte où vient naturellement s'intégrer l'essentiel du répertoire de Brassens. Un document inédit, une seule fois diffusé, et qui renaît aujourd'hui sous la forme d'un coffret de 3 CD dans lesquels nous allons piocher ce matin, puisque s'y trouve également une interview croisée des deux hommes, réalisée par Jean-Serge, directeur adjoint des programmes d'Europe numéro 1, et diffusée sur l'antenne en 67. Pour nous accompagner dans ce conte, j'ai le grand bonheur ce matin d'accueillir Madame Agathe Fallet, témoin privilégié de cette amitié entre son mari et Georges Brassens. Bonjour Madame. Et bonjour. Claude Varnier, ancien directeur technique d'Europe 1, fidèle ami de Georges Brassens, lui aussi, qui ont tous les deux permis à ce conte de trouver une deuxième jeunesse. Vous voulez savoir comment l'émission se présentait ? En voici le début, avec la publicité de l'époque qui, pour cet extrait-là, a été conservée.
Avant de vous faire entendre pour la première fois l'émission Cadoricin du côté de Georges Brassens, je voudrais vous dire ce qui se passe du côté de chez Cadoricin. Cadoricin pour vos cheveux, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous qui préférez les produits en tube, choisissez gel Cadoricin, transparent, étincelant lui-même comme une pierre précieuse, et qui donne aux cheveux l'éclat du diamant. Vous qui préférez le charme que donne aux cheveux un coup de vaporisateur, utilisez la brillantine lustrale. Et si vous désirez en outre que ce simple coup de vaporisateur donne à vos cheveux un parfum ensorcelant, un parfum haute couture, employez la brillantine fleurie Cadoricin.
Je suis comme le chat de Kipling, tous les lieux se valent pour moi. Ici, ailleurs, là-bas, plus loin, je suis chez moi. J'ai mon petit paysage dans la tête. Un paysage que vous rechercheriez en vain dans les collections d'images d'Épinal ou de cartes postales. Un paysage grandeur nature qui n'a jamais servi à la promenade matinale des chiens. Bon. Moi, Jean Leloup, je suis entré un jour dans le village par ce qu'ils appellent la Grand Route. Ils l'appellent la Grand Route parce qu'ils n'en ont jamais vu d'autre. À la vérité, cette Grand Route-là est des plus mal pavées, reçoit plus qu'il ne serait convenable, sa part de crottin de cheval. J'étais arrivé là au hasard des chemins bordés d'aubépines, ces chemins que l'on ne choisit pas, qui s'avancent vers vous. Un écureuil vous fait de l'œil, vous vous engagez dans le sentier de l'écureuil. Ces chemins-là risquent, entre nous, de vous mener très loin. J'ai en effet depuis longtemps rompu toute relation avec les routes nationales. Les Godas à clous n'ont rien à faire auprès des pompes à essence et jamais un passage à niveau baissé ne m'a empêché de dormir debout. Tout ceci pour vous dire qu'un jour je suis entré dans le village. Il n'avait rien d'extraordinaire, ce village-là. Il y avait, si je m'en souviens bien, une église, un cimetière, une mairie, une école et deux ou trois auberges. C'était ce genre de village qui ne tiennent pas à se faire remarquer. Tout a commencé ce jour-là parce que je suis entré dans le village en chantant. Je ne faisais pas exprès de chanter, je chantais peut-être parce qu'il y a une boulangerie dans chaque village et que j'avais faim. C'est ça, je chantais parce que j'avais faim, ce qui n'arrive pas à tout le monde.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus.
Ah voilà pour le décor, il est planté. Puis la musique générale de cette émission qui va durer combien de temps, Claude?
Oh, il devait y avoir 13 épisodes.
Oui.
Mais hélas, on en a retrouvé 11.
11, il en manque 2, ça nuit pas vraiment à la cohésion, je pense, de l'ensemble.
En travaillant, on a retrouvé une certaine unité dans l'ensemble qui est fort agréable.
On est dans le document historique, là. On est dans le document radiophonique. Je veux dire, combien de personnes vont...
C'est exceptionnel. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est un document historique, parce qu'on l'a diffusé qu'une fois sur l'antenne, sur les antennes d'Europe numéro 1 de cette époque. Donc, c'est quelque chose. Et puis, quand on l'écoute, c'est tellement d'actualité, c'est tellement fort. C'est un produit qui aujourd'hui, qui n'a pas vieilli, comme si on avait découvert une très vieille bouteille, vu qu'on l'avait remise sur la table.
Madame Fallet, Agathe, je peux vous appeler Agathe ?
Bien sûr.
Je veux dire, vous avez pas hésité une seconde quand Claude Varnier est venu vous proposer cette idée.
Moi, j'étais ravie, j'étais tout à fait enchantée, parce que je pensais que c'était définitivement perdu, ce feuilleton. J'imaginais pas qu'on avait pu le retrouver, parce que j'avais demandé à plusieurs reprises et on m'avait toujours répondu que c'était introuvable. Et je suis ravie. En plus, le disque est tellement beau, il est très très bien fait, je suis très très contente.
C'est conforme aux deux personnages que vous avez connus, que sont René Fallet, votre mari, oui, et Pearl Brassens.
C'est-à-dire que, à mon sens, c'est plus conforme à René Fallet qu'à Georges.
Pourquoi ?
Et je suis très émue quand je l'entends lire ce texte, parce qu'au fond, ça ne lui ressemble pas du tout. Il détestait la campagne, Georges. Il aimait la solitude dans la ville, dans une chambre. Mmh. Et il n'aimait pas du tout... C'était un piéton des villes, mais c'était pas un piéton des campagnes. Et c'est d'autant plus émouvant qu'il dit ce texte avec tellement de tendresse et tellement de chaleur. C'est formidable.
Mmh. Il faut d'abord revenir sur un point d'histoire, Claude. Pourquoi René Fallet et Georges Brassens sur la toute jeune radio Europe numéro 1, qui a quelques mois d'existence?
Oui, parce que pour une raison assez simple, c'est que René était un auteur très en mode, hein, c'est très à la mode. Et puis, Georges était aussi un jeune compositeur, auteur, chanteur qui arrivait dans une station qui naissait. Oui. Donc, il y avait des liens très forts déjà entre Georges et Europe dès le début.
Oui.
Et puis, on avait besoin aussi d'avoir des choses fortes. À cette époque-là, on voulait aussi faire des émissions qui soient plus construites qu'on les fait aujourd'hui. Je ne suis pas passéiste dans tout ça, mais on faisait venir, et peut-être que dans d'autres émissions, Marc, tu auras l'occasion de faire venir d'autres gens qui travaillaient de cette importance-là. On faisait venir des gens qui avaient une vraie culture, qui étaient des écrivains, qui rencontraient des chanteurs, et puis les gens se mettaient à disposition l'un de l'autre.
Et puis on faisait venir aussi ceux qui n'étaient pas accueillis ailleurs.
Exactement. Bien évidemment, parce que l'important aussi, c'était de faire découvrir.
Et pourquoi il sentait le soufre, Brassens et Fallet ?
Georges sentait surtout le soufre.
Brassens sentait le soufre.
René un petit peu moins, parce qu'il était auteur mode et connu.
De toute façon, il était moins connu.
Oui.
Et j'ajouterais quelque chose, c'est que c'est Georges qui a demandé à René de faire le texte, parce qu'il voulait le faire travailler, et parce qu'il aimait beaucoup ce qu'il écrivait. Mais René n'était pas un auteur très connu à l'époque. C'est le cinéma qui l'a fait connaître après. Mais il n'était pas très connu. Il avait toujours une presse exceptionnelle pour chaque roman qui sortait, mais il était peu connu du grand public.
Donc il y avait un parti pris de cette jeune station de faire écouter le répertoire de quelqu'un qui était peut-être un petit peu révolutionnaire pour l'époque.
Qui était pratiquement interdit partout, partout ailleurs.
Le parapluie entendu par René Fallet en 1953, c'est le déclic ? C'est la chanson fétiche ?
Je pense que c'est le déclic, oui. Mmh. Ah oui, il est tombé littéralement amoureux. Hein.
Alors, Fallet va incorporer dans ce conte tout le répertoire de Brassens et même des chansons, elles sont rares, qui, comme celles qu'on vient d'entendre, n'étaient pas les préférées de l'écrivain, car il y avait, entre Fallet et Brassens, un besoin et une volonté de ne pas déplaire à l'autre. En 67, les deux hommes sont reçus à Europe 1 autour de Jean-Serge.
Est-ce que, pendant cette amitié merveilleuse, est-ce que Georges Brassens a un jour écrit une chanson spécialement à l'intention de Fallet, soit pour lui plaire, soit au contraire pour le tester, pour...
Pas à ma connaissance, non.
Pas à sa connaissance, mais à la mienne, si. Parce que la plupart des chansons, d'ailleurs, Je l'ai. Je dirais pas que je l'ai crié sur les toits. Enfin, je l'ai dit assez souvent. J'ai pas l'habitude de chanter une chanson en public sans avoir demandé à René si elle lui convenait. Peut-être même, il m'arrive parfois de lui faire trop confiance, puisque nous en avions déjà parlé à ce micro-là. Il avait pas aimé les sabots d'Hélène, que je n'aimais pas tellement non plus. Je n'aimais pas tellement les sabots d'Hélène parce que je l'avais faite assez vite, comme on fait un enfant sans y penser, comme ça, et puis on n'y pense pas. Et puis après, avec le recul, je m'étais dit quand même, cet enfant est pas si mal que ça. Et je l'avais justement chanté à René, et René ne l'avait pas aimé. C'est pas un reproche que je lui fais, j'étais pas loin de partager son point de vue. Mais d'ordinaire, quand fallait me dire cette chanson me plaît, je la chante sans scrupule. Et quand il me dit cette chanson ne me plaît pas, je ne la sors pas, sauf Les Sabots d'Hélène, qui est sortie parce que d'autres l'avaient aimée. C'est la seule chanson que René m'a refusé, quelques chansons que le public ne connaîtra jamais parce qu'elles n'ont pas eu l'air de leur plaire.
Ah, par contre, il y en a une qu'on aimait bien tous les deux et d'autres nous l'ont refusée.
Oui.
Par exemple,
je crois que
ça s'appelait Le Curé.
Oui, c'était une histoire de curé, c'est une histoire...
une charmante histoire de curé, et nous l'aimions bien tous les deux, et d'autres nous l'ont refusé, alors.
C'était un curé qui... Oui, c'était un curé qui avait un comportement bizarre, enfin bizarre pour ses ouailles. Et alors, ses ouailles se liguaient contre lui et finissaient par écrire à l'évêque pour lui demander de le chasser du coin. Alors le curé partait planter sa croix ailleurs, quoi. Et alors à ce moment-là, les païens, comment, je me rappelle plus la fin. Enfin, les païens, les non-dévots, à ce moment-là, se mettaient à le suivre et lui disaient, si tu reviens un jour, nous viendrons tous, nous autres, nous qui ne croyons pas en Dieu, nous viendrons tous entendre ta messe.
C'est ça.
Il y a un côté Montaigne et la Boétie chez ces deux-là. On finit par se demander lequel a écrit les chansons, lequel a fait le texte et lequel a fait la musique. Enfin, c'est...
Un peu. Non. Mais ce qu'il y a surtout, parce que je trouve c'est extraordinaire, c'est l'écriture de René, qui est une écriture, Agathe ne dira pas le contraire, qui est très populaire. S'il a une écriture de cœur, une écriture d'instinct. Mmh. Et le travail un peu de littérateur de Georges. Georges, quand il prend des textes, les textes sont fouillés, c'est retravaillé. Un mot, ça se met pas comme ça. Et là, quand on retrouve ce texte de Jean Leloup avec les chansons, il y a une espèce, c'est la magie, ça, hein, c'est la magie, où l'amitié des deux, tout ce qu'ils peuvent avoir entre eux, eh bien, ça fait tout monter d'un cran, et on a une merveilleuse histoire avec des chansons extraordinaires qui vous font frissonner, parce que René sait tellement mettre en valeur les chansons qu'elles prennent une autre dimension. Alors on peut dire, Georges n'a pas besoin de ça. Ben moi, je crois pas, moi qui suis passionné de Georges, je dis, là, c'est formidable, quoi.
On retrouve les enfants d'Europe 1 autour de Georges Brassens et de René Fallet dans quelques instants.
Marc Tronchot.
Les enfants d'Europe 1 accueillent aujourd'hui Agathe Fallet, la femme de René Fallet, et Claude Varnier, un fidèle ami de Georges Brassens. On évoque le comte Jean Leloup, qui a été une émission inédite sur Europe 1 en 1955. C'est un conte dont on peut raconter l'histoire rapidement, Claude. Hein. C'est l'histoire d'un vagabond.
C'est l'histoire d'un vagabond. Mais je rejoins beaucoup ce que disait Agathe. Ce que peut dire Agathe, c'est que c'est quand même là on est complètement dans l'ambiguïté parfois qu'était Georges. Donc dans sa mauvaise foi, c'est-à-dire que il raconte une histoire extrêmement forte d'un homme de la campagne, alors que lui, c'était pas son truc, quoi.
Enfin, dans l'histoire, il y a un vagabond qui tombe amoureux de la fille de la boulangère, qui va être regardé de travers par un gendarme, et puis qui va finir par prendre ses clics et ses claques après avoir été accusé de tous les maux de la terre, quoi.
Exactement.
Hein, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a plu dans René Fallet? Racontez-moi un petit peu René Fallet. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet homme-là quand vous le rencontrez? Et à cette époque-là, il connaît déjà Brassens. Vous allez vivre en fait à la fois l'amitié de ces deux hommes.
Oui, il le connaît déjà depuis deux ans.
Oui.
J'ai rencontré René en 55 au bal dans mon village. Et il m'a dit, si je vous faisais danser la rumba telle que je le conçois, vous en rougiriez de honte. Il dansait mal, vous ne pouvez pas vous en faire une idée. C'était terrible ce qu'il pouvait mal danser. Et moi j'adorais danser, j'étais pas très contente qu'il vienne me faire danser. C'était plus agréable de lire ses livres, voyez-vous, que de danser avec lui.
Donc vous êtes marié avec l'écrivain, pas avec le danseur. qu'est-ce qui rapproche Georges Brassens et René Fallet? C'est une certaine philosophie de la vie, c'est des expériences communes, c'est un œil sur le monde, c'est quoi?
Oh, je pense que c'est quand même l'amour des mots qui les a rapprochés, surtout. Et contrairement à ce que dit Georges dans les entretiens, René aimait beaucoup la musique. Et il était très, très connaisseur en musique. Georges prétend que non, mais René, il ne s'est jamais trompé dans le choix des musiques qu'il aimait. Dans le jazz, il aimait ce qu'il y avait de meilleur. Il aime beaucoup, beaucoup la musique. Et après, il est tombé amoureux fou de la musique classique. Et les dernières années de sa vie, il a écouté beaucoup Mozart, particulièrement.
Alors, en attendant, on va retrouver Jean Leloup, extrait de ce conte sur Europe numéro 1, 1955. Jean Leloup, qui n'est pas le bienvenu dans le village. Nouvel extrait donc, les mots de René, lus par Georges, et une chanson à suivre.
De Montalu, je voyais tout le village. Et je me disais qu'il n'était ni plus mauvais ni meilleur qu'un autre. Qu'on aurait mieux aimé m'y voir débarquer en grosse voiture qu'en grosse chaussure. Non que je fusse sale, oui, mais j'étais pauvre. Ce qui n'est pas recommandé par les syndicats d'initiative. Bref, je n'avais aucune raison de m'installer ici plutôt qu'à Saint-Grisé, 3,5 km, comme il était marqué sur une pancarte. La raison qui me fut restée là fut tout bonnement la raison du plus fort. Conduit par ma charmante boulangère, une dizaine de villageois débouchèrent de la place de l'église. Madame Farine me désigna du doigt. Moi, Jean Leloup, occupé à ramasser les miettes de mon pain sur le velours de mon pantalon, je demeurai là, plus pantois que la lune. Et ces braillards de faire feu des quatre fers en direction de mon talus. Voilà 20 mains crochues sur mes épaules. Des mains de leveurs de sacs de blé, des mains sèches comme des écrevisses, des mains nullement disposées à laisser échapper un trimard. Je n'ai pas compris tout de suite de quel forfait ces indigènes m'accusaient. Je vous le dirai une autre fois. Ce que j'ai compris instantanément, par contre, c'est qu'on me voyait vraiment d'un drôle d'œil dans ce village qui ressemblait tant à tous les villages du monde.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi.
Célébrissime chanson, on a l'impression qu'elle a été écrite pour ce conte. Claude.
C'est pour ça qu'il y a des passages, je trouve que c'est très très fort. Parce que on se dit, mais attends, on a écrit une nouvelle, et puis Georges est allé mettre une chanson, a écrit un texte qui va complètement avec la nouvelle. Là, on se rend compte à quel point ils avaient une amitié, ils avaient une complicité étonnante. Parce que pour en arriver là, on est dans une complicité, en plus d'une complicité humaine, une complicité d'auteur.
Il faut dire que l'un et l'autre avaient mauvaise réputation dans leur ville ou leur village. Moi, quand j'ai connu René, il avait très mauvaise réputation dans mon village. D'ailleurs, il règle ses comptes avec le gendarme Ferragu, qui s'appelait comme ça dans mon village. Le brigadier de gendarmerie s'appelait vraiment Ferragu.
Qu'est-ce qu'il faisait pour s'attirer les foudres de la gendarmerie?
Georges, il avait mauvaise réputation. Il avait été plus ou moins accusé d'un cambriolage et il avait dû partir de Sète.
Ah, c'est du vécu tout ça.
Ah, tout ça, c'est du vécu, c'est de l'authentique. Ah, ben oui.
On se retrouve dans quelques instants. On observe une pause et on retrouve Agathe Fallet et Claude Varnier pour évoquer Brassens et Fallet. Les enfants d'Europe 1, autour de Claude Varnier et d'Agathe Fallet, pour évoquer le conte Jean Leloup, un inédit sur Europe 1, à la naissance de cette radio, un conte écrit par René Fallet avec les chansons de Georges Brassens. On évoquait les deux hommes à l'instant, anarchistes, athées, antimilitaristes, endonimètes. Ça fait partie des poncifs ou est-ce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vérité là-dedans?
Ils étaient anarchistes tous les deux quand même. Alors, est-ce qu'on appelle le temps anarchiste? Si on n'accepte pas trop les règles en place, on peut considérer qu'on est un anarchiste. Mais quand on écrit, qu'on écrit des livres et tout, par principe, on n'est pas trop dans les règles. On fait des bouquins bon chic, bon genre. Mais si tu veux faire la littérature populaire ou la littérature, dans le cas présent, c'est quand même la rencontre de la littérature et de la chanson. Oui. La chanson, pas n'importe quelle chanson. Les gens qui font ça... Il y a des choses qui les choquent un peu, ils ne sont pas toujours, je dis bien, dans les bonnes règles et dans les bons chemins.
Quand on parle de rencontres, ça veut dire qu'il pouvait arriver à Fallet de s'insinuer sur le terrain musical et à Brassens de s'insinuer sur le terrain, j'allais dire, de la littérature telle que pouvait la pratiquer Fallet?
Non, je ne pense pas que René soit jamais intervenu dans la composition des chansons, encore moins, bien sûr. Mais dire qu'il n'y connaissait rien, ça, je crois que ce sont les affirmations gratuites de Georges, parce que René connaissait très très bien la musique. Mais vous parlez d'anarchiste, Brassens était plus profondément et plus viscéralement anarchiste que René. René l'était naturellement, Mais Brassens, il l'était profondément. Il avait collaboré à des journaux anarchistes. Et si vous lisez ses articles, c'est d'une violence extrême. On n'écrirait plus ça aujourd'hui. C'est impossible que quelqu'un écrive ça aujourd'hui.
Mais est-ce qu'ils étaient amis parce qu'ils étaient complémentaires ou parce que précisément ils étaient un petit peu les mêmes?
Je pense qu'à mon avis, ils étaient complémentaires sur plein de choses. Et puis ils avaient plein de choses qui étaient communes. Oui. C'était un peu.
Oui. Je crois que Georges était très, très fasciné par la spontanéité. Justement, d'écriture de René. Ça l'intéressait beaucoup, cette façon d'écrire avant de penser presque. Alors que Georges, il tournait autour de quelque chose pendant des jours et des jours et des jours. Et il admirait beaucoup la facilité de René, beaucoup.
Alors, question, est-ce que Fallet a eu parfois envie d'écrire des chansons? Question posée par Jean-Serge. Écoutez le dialogue qui va suivre. Un mélange merveilleux de tendresse, de modestie, d'estime réciproque et d'amitié.
René Fallet a dit tout à l'heure, depuis que j'ai entendu les textes des chansons de Brassens, ils sont tellement bien écrits que je n'écrirai pas dans ce style-là.
Bon, ça, c'est un raisonnement des bébés, ça. Ah bon? Ça tient pas debout.
Non, non.
Parce que quand je lis des poètes, moi, comme Baudelaire, comme Verlaine, comme Mallarmé, comme Valéry, comme Éluard et Aragon, je sais que je n'écrirai jamais aussi bien que ces gens-là. Mais chacun a sa personnalité, chacun a sa vie intérieure personnelle et sa vie intérieure propre. C'est pas parce que des gens ont eu du génie avant moi que je n'ai pas le droit d'avoir un peu de talent. C'est pas parce qu'on a dit 100 fois à des gens « je t'aime » qu'il faut que je me taise, moi, quand même.
Ah, mais attention,
on peut très bien écrire.
On parle de chansons, Éluard.
C'est une prétention rare de ne pas vouloir écrire après les autres. Hein. C'est une prétention rare. Hein.
Oui, mais on parle de chansons, Éluard ou Baudelaire, avec tout leur talent, étaient peut-être incapables d'écrire une chanson. Baudelaire n'a jamais écrit un roman.
Là, tu changes de sujet. Tu viens de nous dire qu'après avoir entendu les chansons de Brassens, tu ne voulais pas écrire de chansons parce que tu avais peur de ne pas faire aussi bien. Et maintenant, tu viens me parler d'autre chose. Parlons sérieusement. As-tu, oui ou non, voulu faire de chansons? Tu nous l'as dit tout à l'heure. As-tu, oui ou non, dit, après avoir entendu Brassens, je n'avais plus le courage de faire des chansons?
Ouais.
Eh ben, ça tient pas debout. Parce que si moi je n'avais pas eu le courage d'écrire après les autres, je me serais tu depuis longtemps, parce que dans le passé, il y a des tas de gens qui ont écrit 100 fois mieux que je n'écrirais jamais, qui avaient plus de talent que moi, et ça ne m'a pas empêché d'écrire des chansons. En somme, quand je fais des chansons, c'est un peu comme quand je viens chez des amis et que je leur apporte un bouquet de fleurs, quoi, les fleurs que j'ai glanées pendant au printemps et en été. Et je choisis quand même les fleurs qui me semblent préférées.
Mais enfin, j'essaye de te faire comprendre qu'outre les chansons Brassens, il y a un personnage Brassens, parce qu'on l'a encore vu récemment, quand quelqu'un s'amuse à chanter du Brassens sans être Brassens, c'est pas toujours un succès mémorable.
Oui, mais ça c'est parce que c'est chanté d'une façon très différente et que le public a été habitué à les entendre, les chansons auxquelles tu fais allusion, d'une autre manière. Il y tient à cette manière, exactement comme on tient, comme toi tu tiens, comme moi je tiens, nous tenons aux enregistrements originaux de Charles Trenet, par exemple.
Ah oui.
Il nous serait difficile d'entendre Je chante, qui nous a marqué à une certaine période de notre vie, réenregistré par Trenet ou par d'autres.
Agathe, je vous vois sourire à l'écoute de c'est vrai, de cet extrait qui est magnifique, parce que c'est un vrai concours de pudeur et avec une amitié en fond et beaucoup de mauvaise foi, effectivement. Oh, c'était habituel, ça, vous en avez vécu des heures.
Ah,
et des
oui.
Heures.
Et je crois quand même qu'il faut dire que vous demandiez ce qui les rapprochait, c'est qu'ils s'amusaient beaucoup ensemble. Ils se sont beaucoup, beaucoup amusés. Ils ont fait des choses absolument extravagantes à l'impasse, quand Georges habitait l'impasse chez Jeanne. C'était à qui ferait les plus grosses farces. Et Georges coupait les cheveux de ses amis avec une baïonnette rougie au feu. Enfin, ils étaient complètement délirants. Hein. Ah oui. Georges, c'est un fou authentique. Il était formidable. Et après, il s'est assagi, ce qui est normal parce qu'il a vieilli. Mais il est resté jeune longtemps, finalement. Il s'est assagi quand il est parti de l'impasse. En fait,
c'était
impasse Florimond dans le 14e.
Ah.
Et cette maison était invraisemblable et elle était remplie d'animaux que Georges adorait. Il y avait des chiens, des chats. C'était sa vraie vie. C'est là qu'il avait vécu pendant la guerre.
Claude, tu confirmes la maison de fou?
Oui, et puis juste pour raconter une anecdote sur l'impasse Florimond, parce que lorsque Georges chantait chez chez Patachou. Il avait été accompagné, évidemment, il avait rencontré un bassiste qui était Nicolas. Et il lui avait dit, dis-moi, tu peux pas faire deux, trois boum-boum derrière mes chansons pour que ça fasse mieux. Alors Nicolas lui avait dit, oui, je te le fais. Puis un soir, Nicolas lui dit, tu veux que je te ramène chez toi? Il y avait une vieille guimbarde. Alors Georges lui dit, ouais, mais attends, moi j'habite loin. Ah bon, t'habites où? Bah, j'habite dans le 14e. Ah bon, t'habites dans le 14e? Oh, ça me fait un détour, mais je te vais t'emmener. Dans quel coin du 14e? Bah, je lui dis, allez, du côté d'Alésia. Ah oh, bah, je connais un peu par là. Ouais, mais il dit, ça m'étonnerait que tu connaisses où j'habite, parce que moi j'habite dans un truc, c'est une impasse insupportable. Il n'y a personne qui connaît ça. Ah bon, il dit, t'habites où? Il dit, impasse Florimont. Il dit, ah, tu me fais rire, je suis né au 6. Et Nicolas, il découvre, Nicolas était né au 6, c'est-à-dire dans l'impasse où habitait Georges. C'était assez drôle. Et après, bien sûr qu'ils ne sont plus quittés. Hein. Mais c'est étonnant.
Il y en a eu des interprètes de Brassens, pas toujours mémorables, comme le disait René Fallet. Et j'en ai choisi un qui n'entre pas dans cette catégorie, bien au contraire. À Europe 1, l'émission de Jacques Ourévitch 5-6-7 a permis d'assister à la naissance de morceaux inédits, comme celui qui va suivre, La Marche Nuptiale. Écoutez, c'est un texte de Brassens chanté par Serge Lama.
Mariage d'amour, mariage d'argent, j'ai vu se marier toutes sortes de gens, des gens de basse source et des grands de la terre, des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir content du jour de pauvres noces où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant monsieur le maire. C'est dans un charabeu, s'il faut parler bien franc, tiré par les amis, poussé par les parents, que les vieux amoureux firent leurs épousailles après longtemps d'amour, longtemps de fiançailles. Cortège nuptial, hors de l'ordre courant, la foule nous couvait d'un œil protubérant. Nous étions contemplés par le monde futile qui n'avait jamais vu de noces de ce style. Je n'oublierai jamais la mariée en pleurs, berçant comme une poupée son gros bouquet de fleurs. Moi pour la consoler, moi le tour de ma morgue, sur mon harmonica, jouant les grandes orgues. Voici le vent qui souffle, emportant crève-cœur, le chapeau de mon père et les enfants de cœur. Voici la pluie qui tombe, en pesant bien ses gouttes, comme pour empêcher la noce coûte que coûte. Tous les enfants d'honneur, levant le poing au nu, guerriers par Jupiter, la noce continue. Par les hommes décriés, par les dieux contrariés, la noce continue.
Texte merveilleux, interprétation magistrale, moi j'en ai des frissons dans le dos. L'enregistrement, bon, bah c'est Europe numéro 1, voilà, et on en est plutôt fiers de ce genre de choses, entre autres. Il aimait qu'on chante ses chansons, Brassens, Claude?
Non, il aimait pas qu'on chante ses chansons.
Pourquoi?
parce que il les avait écrites, et je pense qu'il y avait plein de bonnes raisons pour dire ça. Il disait d'abord parce que les gens sont habitués à m'entendre dans mes chansons, donc c'est, ils peuvent aussi ne pas aimer, mais c'était lui qui n'aimait pas. Que ce soit Barbara quand elle chantait La Complainte des Filles de Joie, j'en ai beaucoup d'autres où moi je suis allé défendre Barbara, ils ont dit mais tu écoutes, tu dis que non t'aimes pas, mais écoute un peu ce qui était fait. Et là quand on entend Serge Lama chanter La Noce, la chair de poule, quoi. On ne peut pas prétendre que ces gens-là n'ont pas pourri de talent et n'ont pas mis en valeur la chanson de
Georges, cet enregistrement de Lama.
Ah, je ne suis pas sûr.
Non.
Je crois
en
pas.
Fait, il y a aurait peu aimé. De moi, je pense, oui. Il y a peu de gens qui ont voulu chanter Brassens de son vivant, très peu. Ils se sont mis à vouloir le chanter après sa mort, mais pas de son vivant, parce qu'il faisait peur. Il avait une façon de chanter et d'être sur scène qui était inégalable. Donc personne n'osait chanter Brassens. En fait, je ne sais pas s'il aurait refusé, je ne crois pas. Mais Lama, on a l'impression que c'est un drame qu'il chante. Alors que quand Georges chante, c'est une petite histoire jolie, mais ce n'est pas un drame. Là, c'est vraiment dramatique comme il le chante. Hein, c'est fou.
Je peux vous poser une question un peu plus personnelle. Vous n'avez jamais été, j'allais dire, jalouse de cette virile amitié entre ces deux bons hommes qui semblaient pas faire beaucoup de place pour le reste, ou pour les femmes notamment.
C'était un peu difficile à vivre parce que ils faisaient souvent bande à part. Mais jalouse, non. Je peux pas être jalouse de quelque chose d'aussi formidable. C'est pas possible. Je suis pas jalouse de toute façon. Je pense que les gens doivent vivre comme ils ont envie.
On se retrouve dans quelques instants, une pause, et on retrouve ce dialogue avec Claude Varnier et Agathe Fallet au sujet de Brassens et de René Fallet.
Marc Tronchot.
Aujourd'hui, dans l'émission Les Enfants d'Europe 1, on évoque l'amitié entre René Fallet et Georges Brassens. Agathe, vous étiez en train de me dire à l'instant ce que Georges Brassens apprenait à son perroquet.
Il avait effectivement
des animaux, on en a parlé.
Oui, hein, mais il avait un perroquet.
Il était très farceur.
Il était très farceur et il lui apprenait « Je suis plus con que la forgue, est-ce possible ?»
Pourquoi, il en voulait à la forgue ?
Non, mais il le trouvait con. Non, il lui en voulait pas spécialement. Enfin, je ne crois pas. Non. Il lui apprenait aussi, fallait se racocu. Et il m'en voulait pas, en fait.
Et le perroquet, il y allait.
Il avait commencé.
Alors pendant ce temps, les aventures de Jean Leloup se poursuivent, c'est notre fil rouge, avec les personnages qui pourraient être ceux d'une bande dessinée, le gendarme, Goubi, le gentil innocent du village, qui a vu le diable dans l'eau de la fontaine sans comprendre qu'il s'agissait de son propre reflet, et Marguerite, la fille du boulanger.
Goubi refusa énergiquement de s'approcher de l'eau où vivait son diable et s'en alla à la poursuite d'une mouche aux ailes bleues qui lui avait chatouillé le nez. Je demeurai seul, épiant les bruits qui m'annonceraient la venue de Marguerite. Il y avait auprès de la fontaine pure un très vieux banc, aussi vieux qu'elle, et je m'assis dessus. Je songeais qu'au temps lointain des gendarmes à cheval, les filles et les garçons du hameau, dont il ne restait plus que la maison de Goubi, venaient s'asseoir sur ce banc-là. Les mains sur le genou de ma culotte de velours, j'écoutais piailler les oiseaux, frissonner les feuillages, sautiller les insectes. Impatient, je me levais, allais regarder dans cette eau où mon Goubi voyait le diable. Moi, j'y vis une fée. J'y vis le visage de Marguerite. Elle s'était approchée sans bruit et s'était penchée par-dessus mon épaule. Je ne sursautais pas et dis jouant le jeu. Ma parole, Jean Leloup, c'est une fontaine de la forêt de Brocéliande qui est venue se perdre ici. C'est une fontaine magique. Goubi voit le diable, toi tu y vois un ange. Un ange que tu peux embrasser si tu touches l'eau de tes lèvres. J'approchai ma bouche de l'eau et la posai sur le reflet de Marguerite. C'était un baiser frais et irréel que ce baiser-là. Je me relevais, me retournais, et prenant Marguerite dans mes bras, donnai une suite à ce baiser, dans les nuages. Puis Marguerite m'offrit trois brioches enveloppées dans un papier de soie. Très loin, 7 heures sonnèrent, assourdies ici par le chant des merles. Main dans la main, Marguerite et moi nous assîmes sur le banc. Un banc qui jadis avait été public, et avait vu s'asseoir les amours du hameau disparu.
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants.
les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain.
Nouvel extrait de ce magnifique poème en prose intitulé Jean le Loup. Les textes sont de René Fallet, les chansons bien évidemment de Georges Brassens. Il y a presque du Pagnol dans cette histoire. On pourrait la transposer d'ailleurs du côté de la province. Qu'est-ce que tu en penses, Claude?
Je trouve. En plus, c'est tellement bien décrit qu'on les voit se dessiner devant nous. On les voit, on voit exactement comment ils sont. Alors bien évidemment, moi je connais bien Georges, donc connaissant Georges, j'ai peut-être encore quelque chose de plus que d'autres, mais quand on aime Brassens et quand on aime Fallet, ils sont faits des choses tellement fortes que ça devient une vraie scène. On est passé dans le cinéma presque. Moi je les vois, je suis à La Fontaine, je vois la bouille de Goubi, je vois tout ça, avec sa trombine impossible, qui se voit dans l'eau, qui se fait peur, parce que c'est un simplet, et puis là, de voir Goubi, puis d'un seul coup arrive la fille de la boulangère qui est belle comme tout, tout ça on les voit, on les a dans les yeux, c'est décrit.
On n'est pas loin de Pagnol, on n'est pas loin de Jean Florette, on n'est pas loin de tous ces personnages qui cultivent de l'authentique, comme on dit dans le texte. La célébrité n'a pas l'air de les obséder, ces deux bons hommes que sont Fallet et Brassens, ils n'y pensent pas du tout.
Ben non, mais Georges en a quand même beaucoup souffert. René n'a jamais eu une célébrité telle qu'il puisse en souffrir. Mais Georges, il sortait plus de chez lui. Il a été très malheureux parce que c'était encore une époque où les gens dans la rue parlaient aux vedettes. Maintenant, les vedettes peuvent passer dans la rue, plus personne, je pense, plus personne. Puis ça dépend aussi des quartiers, mais il habitait un quartier relativement populaire. Donc on venait beaucoup lui parler, on venait beaucoup lui poser des questions, on l'invitait volontiers à dîner. Il disait toujours oui, d'ailleurs il n'y allait jamais. Mais il en a quand même beaucoup souffert. Par exemple, au début, que je l'ai connu, moi, et René bien longtemps avant moi, 2 ans moins, nous allions au cinéma, beaucoup.
Oui.
Et après, il a plus osé parce qu'il était.
Comment est-ce que votre mari René Fallet a-t-il réussi à amener Georges Brassens sur un plateau de cinéma? Parce qu'il a fait un film. Hein, c'était quoi? C'était
Cordelina. Oui, voilà. C'était tiré d'un roman que Georges avait beaucoup aimé, qui s'appelait La Grande Ceinture. Mais je pense que Georges, c'était une expérience qui ne lui déplaisait pas tant que ça, en fait. Il a dit après qu'il avait détesté. Mais je pense que c'était une expérience qu'il avait envie de connaître.
Et l'Académie française, il en a été un jour sérieusement question, s'agissant de Georges Brassens.
Oui, moi je me souviens de ça, oui. Mais Georges, ça l'a toujours fait rire aux larmes.
En tous les cas, lors de l'entretien entre les deux hommes en 67, sur Europe 1, le sujet vient sur le tapis, prétexte là encore un savoureux échange.
En matière de plaisanterie, René Fallet disait tout à l'heure, après le TNP, il faudra aller au musée du Louvre. Avant de passer au musée du Louvre, Georges Brassens a été au musée Galliera. Mais à cette occasion, on a laissé entendre Georges Brassens qu'il n'était pas impossible qu'on présente la candidature de Brassens à l'Académie française. Ah
oui. Parlons-en de ça. Mais c'est toute une blague. C'est une farce que me font quelques académiciens pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup d'estime. Mais il n'est évidemment pas question qu'on m'accepte sous la coupole. Il n'est pas question non plus que j'accepte d'y aller. D'ailleurs, on ne me proposera pas. C'est une blague.
Parce que Georges Brassens considérerait que entrer à l'Académie française, il ne pourrait plus se produire sur scène, être proche de...
Non, je n'estime rien de tout cela. Je pense que c'est pas mon rôle d'aller à l'Académie française. Je suis un brave type qui fait des chansons, qui se lève brusquement et qui dit à ceux qui l'entourent, écoutez la dernière que j'ai faite, voilà, ça va pas plus loin.
Personnellement, je trouverais ça rigolo, moi.
Ah, tu m'avoues avec bicorne, là, et puis l'épée, naturellement.
Oui.
Tu sais que ça te coûte très cher, l'épée, parce que ce sont les amis de l'académicien qui lui offre ça.
Ah ben écoute, là, je consacrerai bien un peu de mes droits d'auteur du Brassens à l'achat d'une épée, le pommeau en forme de guitare avec une brave Margot, un Robert Allaire.
Le meilleur goût, quoi.
Oui, oui, oui.
Et puis tu irais rire à ventre déboutonné quand tu me verrais entrer.
Ah, ça fera un beau palmarès de chansons, ça, ok.
Non, cela ne veut pas dire que je méprise l'Académie française et ceux qui en font partie. C'est une institution très noble et là-dedans, plein de gens sont pétris de talent, mais
pas tous. Hein.
Non, mais pétri, est-ce qu'il n'y a pas déjà l'étymologie de pétrifié?
Oh, je ne sais pas, non, je ne pense pas, je ne crois pas.
Non, mais est-ce que c'est pas cette crainte?
Enfin, c'est pas à ma place. L'Académie française, et encore une fois, on m'a jamais demandé sérieusement d'en faire partie. Et puis ça me gênerait d'en faire partie, quoi. Ça pourrait faire plaisir à ma mère, peut-être, mais hélas, elle n'est plus là. Alors, non, c'est pas sérieux, cette histoire de l'Académie française. Un auteur de chansons n'entre pas à l'Académie française. Et puis d'ailleurs, encore une fois, on n'en voudrait pas.
René Fallet disait de Georges Brassens, c'est un poète qui descend dans la rue comme une émeute. C'est sa place, la rue, puisque sa place, c'est pas l'Académie. Oui.
Sa place, c'est la Claude. Rue. Claude. Bien sûr. Et l'Académie.
Ça a été.
On peut dire quand même que les académiciens.
Oui, il est un peu hypocrite.
Il est un peu hypocrite,
oui, cette affaire. Oui. Tous ces gens que je respecte beaucoup, en fait, ils les respectaient pas du tout. Surtout trop. Parce qu'ils étaient à l'Académie française. Ils avaient horreur des académies, de toutes les académies. Vous parliez de célébrité, si la célébrité l'avait gêné, Georges. Vous savez qu'à un moment, il s'était acheté un habit de scaphandrier pour pouvoir sortir incognito. Et René lui dit, mais tu crois qu'on va pas te remarquer autant habillé en scaphandrier qu'en Georges Brassens? Voilà comment il était, Georges. Il était quand même comique.
Hein. Claude, être ami de Georges Brassens, c'était facile ou c'était très, très exigeant?
D'abord, moi, je considère que c'était un peu exceptionnel. Je ne l'ai pas trop mesuré quand j'étais très proche de lui, parce que c'est l'amitié, quand elle est comme ça, tu la vis au jour le jour, tu la vis très fort. Mais déjà, point un, moi, je retrouve dans les propos de René les mêmes choses que j'ai ressenties d'aller chez Georges, c'est une fête. On va chez Georges, on va dans une fête exceptionnelle, parce qu'il va toujours s'y passer quelque chose. On ne sait pas ce qui va s'y passer, mais il va s'y passer quelque chose. Ça peut être une rencontre avec un personnage, il m'arrivait quand même souvent de rencontrer Dino Ventura, ou ça peut être, on peut parler poésie, parce que j'arrivais avec un agra, puis on se mettait à parler poésie, il se mettait à me dire des textes de synthèse.
Avec un agra, faut dire pour les auditeurs, avec un magnétophone de reportage.
Pardon, voilà. Un magnétophone de reportage. Et donc, des fois, j'enregistrais des textes qu'il me disait comme ça par cœur, après je pouvais prendre un bouquin. Et c'était mot à mot ce qu'il avait pu dire. Il me chantait des chansons avec sa guitare. Ça, tiens, écoute ça. Et puis j'avais 4-5 poèmes avec le même air. Moi, quand Georges dit que René n'avait pas trop d'oreilles, n'était pas musicien, il est de très mauvaise foi parce qu'il n'y avait aucune des chansons. Des musiques de Georges qui ont connu de succès, qui n'ont pas eu l'aval de René, parce que quand même René, quand les trucs lui plaisaient pas, il disait ça c'est son truc, ça m'emmerde un peu quoi. Donc Georges travaillait beaucoup ses musiques. Et moi je suis un grand défenseur de la musique de Georges, je l'ai déjà dit plusieurs fois, parce que je trouve c'est la musique de la langue française. C'est, il a trouvé des notes qui correspondent aux mots, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et Georges l'a dit sur notre antenne plusieurs fois, il a dit, je vais peut-être faire de la peine à beaucoup de gens, et je considère que les gens qui n'aiment pas mes musiques sont des connards, je le redis, éventuellement pour ceux qui ont mal compris, je le répète.
Et ceux qui n'aimaient pas les livres de Fallet les juger comment?
Non, il n'avait pas du tout de jugement sur les gens qui n'aimaient pas ses livres, René.
Est-ce que le désir de liberté, c'était pas leur plus important dénominateur commun, ces deux bons hommes?
Oui, mais c'était pas le même genre de liberté. René, c'était vraiment la liberté de Jean Leloup. Et Georges, c'était la liberté d'écrire toute la journée et de lire et d'écouter de la musique dans sa chambre. C'était pas la même chose. C'était pas la même liberté.
Pourtant, il en parle bien de la liberté et sur un texte de René Fallet. La liberté, cette ode à la liberté qui figure donc parmi les textes de conclusion du conte Jean Leloup dont on vous parle depuis trois quarts d'heure. Peut-être l'un des plus beaux passages, l'un des plus émouvants, assurément.
J'allais et le soir tombait. Tout bleu. Les angélus se répondaient de village en village. J'entendais les chariots grincer sur les chemins, la soupe fumée par les cheminées. J'étais libre. J'attendais que se dessine au ciel la grande ours qui était mon grand livre. Lorsqu'il ferait nuit noire, je plumerais ma volaille et la ferais cuire. Et puis je m'étendrais sur un lit de fougère, toute la nuit, au-dessus de ma tête d'homme libre et d'homme seul. Quelle bonne vie, pensais-je, que d'aller où va le vent. Jamais tu n'auras de fil à la patte.
Personne ne te dira « Fais comme ceci, fais comme cela ». Quand on te demande tes papiers, tu en as si peu que tu préfères prendre tes jambes à ton cou. Rien ne t'arrête qu'un bol de soupe, qu'un baiser tombé du ciel. Certes, tu n'es pas rassurant. La liberté n'est pas faite pour les enfants de cœur. C'est une méchante goutte de campagne qui vous tord les boyaux, la liberté. Je soliloquais en marchant d'un bon pas, les mains dans mes poches. Les mains sur mes cuisses, plutôt, car je n'avais plus de poche. Cela ne me gênait point, d'ailleurs, car je n'aurais rien eu à y mettre. Ma pipe, mon tabac, mes ficelles, mes 4 sous, je logeais tout ça dans ma casquette. Si Marguerite m'avait aimé autrement que pour une semaine, que serais-je au juste devenu ? Je n'aurais plus connu l'angoisse qui vous prend à la gorge lorsqu'on s'approche un peu trop près d'un poulailler. Je n'aurais plus jamais eu de haie à escalader lorsqu'un chien vous court aux chausses. J'aurais eu un portefeuille, un nom, un vrai nom, avec monsieur devant, en lettres majuscules. Un toit sous lequel il aurait fallu dormir chaque nuit. J'aurais eu, qui sait, une basse-cour à moi. J'aurais eu peur que des larrons viennent me voler mes poules. J'aurais eu des marmousets. Je leur aurais interdit de traverser la route et de se pencher à la portière de la vie. J'aurais eu des tas de choses. Et j'aurais été 100 000 fois plus pauvre qu'avant. Non, Marguerite, je n'aurais pas mangé de ce bon pain-là. Une nuit, je me connais, j'aurais ouvert la fenêtre et je serais parti. Alors tu aurais eu du chagrin, pendant que j'aurais éclaté de rire, sur ma patrie, la route. Tu as bien fait, Marguerite. Je t'embrasse, Margot. Je te remercie, petite. Vois comment on me fait les gros yeux dans ce village que je traverse. On rentre les enfants. On lâche les chiens. Je suis le comédien, le roulant, le va-nu-pied, le traîne-misère, l'infâme et l'indigne. Je suis un homme.
Dans un très joli texte que vous écrivez pour la jaquette du disque, Agathe, vous dites... Il n'y a plus de cheminots, on les appelle des routards, ils ont leur guide, seul le gendarme est éternel. Ils auraient aimé cette époque où ils s'y seraient adaptés sans trop de problèmes, René Fallet et Georges Brassens?
Ça alors, je ne peux pas répondre en leur nom, mais je ne crois pas qu'ils auraient beaucoup aimé. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'ils auraient aimé les ordinateurs, les téléphones portables. Si, en tant que gadget, ils étaient assez portés sur le gadget, mais pas pour s'en servir, en fait. Pour l'objet en lui-même, mais pas pour s'en servir.
Voilà, l'ode à la liberté de Georges Brassens, cette émission touche à sa fin. Merci de votre participation. On n'oublie pas de remercier le neveu de Georges Brassens aussi.
Voilà, hein, qui a... Serge Casani qui nous a donné les droits quand même. Il nous a aidé à faire cet album. Et je crois que nous n'avons pas trahi ni René ni Georges. Mmh. Et c'était notre obsession. Parce que c'est vrai qu'on a trop tendance aujourd'hui à vivre dans notre monde moderne. Et là, il y avait un climat, il ne fallait surtout pas passer à côté. Et j'espère que nous n'avons pas dérogé à la règle.
Et j'espère qu'on aura donné envie d'écouter ce coffret qui est bien évidemment disponible à la vente. Merci Agathe, merci Claude d'avoir participé à cette émission des Enfants d'Europe 1. Les Enfants d'Europe 1 que je vous invite à retrouver dimanche prochain. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de dimanche, passez une bonne semaine. Et puis surtout, comme je vous le dis habituellement, une très belle radio.
C'était Marc Tronchot.